Donc alors,
je ne vais pas vous faire tout le développement psychique de l'enfant, avec les étapes qu'il passe, avec les angoisses qu'il traverse, etc. Pour deux raisons. D'une part, parce que tous ceux qui connaissent déjà ça, ils vont s'emmerder. Et d'autre part, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pourrez l'apprendre facilement. Je vous enverrai des papiers, etc. Bon, c'est juste de la connaissance. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir que je vais centrer surtout sur l'enjeu principal, qui est comment est-ce qu'on va faire avec l'enfant, et en l'occurrence, principalement sur le contenant psychique, d'une part, et la façon dont les choses difficiles vont être traitées à l'intérieur de ce contenant. Alors, c'est ça la question sur laquelle je vais accentuer pendant les 4 jours. Le contenant psychique. En fait, on est bâti, nous, avec différents espaces différenciés à l'intérieur de nous. Chaque espace a ses règles. Par exemple, les règles de fonctionnement de cet espace sont différentes suivant que c'est les poumons, suivant que c'est l'estomac, l'intestin, etc. Dans les poumons, on peut pas mettre de l'eau. On peut pas mettre de l'eau, c'est impératif. Il a un certain type de fonctionnement et pas un autre. Dans le corps, il y a la peau qui le contient, et la peau est la frontière externe entre le dehors et le dedans. Tous ces contenants, ils ont une frontière externe. Le poumon a une frontière externe, l'estomac a une frontière externe. Tous ces contenants ont une frontière externe, et le principal, évidemment, ça a été développé par Didier Anzieux, c'est la question de la peau, le moi peau. La peau, c'est le symbole même du contenant. C'est-à-dire, c'est à la fois une surface qui est relativement poreuse, il y a les pores, etc., donc qui est quand même en interaction entre l'intérieur et l'extérieur, mais qui sépare nettement le dedans et le dehors, et que si jamais cette peau est trouée gravement, eh bien, le dedans va se disler, sortir à l'extérieur, et ça va être la mort, quoi. Donc, chaque espace contenant à la nécessité d'avoir une frontière qui soit semi-poreuse, mais suffisamment contenante. Eh bien, nous, on a un contenant psychique. Ça, c'est presque ce qui caractérise l'être humain, le fait d'avoir un contenant psychique. C'est-à-dire que à l'intérieur de ce contenant psychique se traite tout ce qui est problématique du contenant psychique. Donc, représentons-nous le contenant psychique comme une espèce de contenant comme ça. Le contenant psychique, c'est un espace interne qui a une frontière, et cette frontière doit être fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment ferme pour que tout ce qui doit se traiter à l'intérieur ne sorte pas, est suffisamment poreuse pour que quand même ce qui doit être traité puisse venir être traité à l'intérieur. Ce contenant psychique, c'est ce qui va nous mettre toute l'enfance et toute l'adolescence à élaborer. Et une fois qu'il sera élaboré, on aura notre propre contenant psychique pour traiter à l'intérieur de nous ce qui doit être traité. Bion, qui est un célèbre psychanalyste très intéressant, mais très hermétique, a beaucoup théorisé autour de l'estomac. Il compare l'estomac. L'estomac, c'est un lieu particulier avec un contenant qui reçoit des choses de l'extérieur et qui les redonne ensuite à l'intérieur aux intestins, mais qui doit impérativement les transformer à l'intérieur. C'est-à-dire ce qui rentre à l'intérieur de l'estomac doit ensuite être transformé pour pouvoir être utilisable. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que on doit être capable de transformer à l'intérieur de nous-mêmes ce qui vient, qui risque d'être perturbant, venu de l'intérieur. Par exemple, les pulsions. J'ai envie de tuer quelqu'un, j'ai envie de sauter sur une femme, j'ai envie de n'importe quoi, les pulsions qui viennent. Les angoisses. Les émotions trop violentes, toutes ces choses doivent être contenus et traités, sinon ça va passer à l'acte. Hein? Donc ce qui vient de l'intérieur a besoin de rentrer dans le contenant psychique et d'être transformé en une partie utilisable, et ce qui vient de l'extérieur, les effractions, les envahissements, la brusque rencontre, si je suis une petite fille avec un exhibitionniste au coin de la rue, etc., ça vient de l'extérieur comme une effraction. Eh bien, il va falloir que je puisse, cette partie qui a risqué de trouer mon contenant psychique, il faut que je renforce le contenant et qu'à l'intérieur, je traite ce qui se passe. Donc cette comparaison est très utile parce que du coup, vous comprenez que le travail qu'on va devoir faire avec les enfants, c'est prioritairement les aider à continuer à bâtir leur contenant psychique pour qu'ils puissent avoir à l'intérieur d'eux-mêmes une zone qui va gérer tout ça. Et puis, une fois qu'on a renforcé le contenant, apprendre à transformer les choses qui sont trop angoissantes et trop démolissantes pour l'enfant. OK ? Donc, le contenant psychique, c'est un contenant sécurisé qui fait la différence entre le dedans et le dehors, par exemple. Hein. Si je ne fais pas la différence entre le dedans et le dehors, je suis psychotique. C'est-à-dire, j'entends des voix qui viennent m'envahir, qui sont en réalité mes pensées, mais que ça vient de l'extérieur, comme si c'était de l'extérieur. Si je n'ai pas une différence claire entre le dedans et le dehors, je n'ai pas un contenant psychique solide, et du coup, je ne sais plus si ce qui est dehors et ce qui est dedans se différencie. C'est le contenant psychique, c'est ce qui va permettre de faire la différence entre le fantasme et la réalité. Je peux avoir le fantasme de tuer quelqu'un parce que j'en ai marre de cette personne, mais je sais que dans la réalité, je ne le passerai pas à l'acte, que ça restera à l'intérieur de mon contenant psychique et que j'en ferai quelque chose. Le contenant psychique, ça peut être aussi la différence entre la pensée personnelle et la pensée des autres, l'influence d'autrui. Je peux différencier. Oui, les autres pensent ça, mais moi, j'ai telle option, etc. Vous voyez que c'est vraiment nécessaire pour l'équilibre. Parce que si je ne peux pas me repérer entre le dedans et le dehors, si je ne peux pas me repérer entre ma pensée et celle des autres, si je ne peux pas me repérer entre le fantasme et la réalité, alors là, c'est le bordel. Et là, je me retrouve en hôpital psychiatrique. Parce que du coup, je n'ai pas ce contenant interne qui est typique de l'être humain et qui est justement notre travail le plus vivant, le plus important durant notre vie, quoi. Mais qui va se mettre en place pendant toute l'enfance et l'adolescence. Et à l'intérieur, une fois que j'ai ce contenant psychique et que j'ai pu l'élaborer, et le tenir, qu'il y a une différence entre le dedans et le dehors, ma pensée, celle des autres, etc., etc., le fantasme et la réalité, eh bien, à l'intérieur, j'ai un espace, comme pour mon estomac, pour traiter ce qui vient est trié, ce qui est toxique, et détoxiquer ce qui est toxique, etc., etc. Donc, certains, comme par exemple René K.S., font la différence, mais c'est juste des subtilités intellectuelles, entre contenant et conteneur. Un contenant, ça contient, un conteneur, ça travaille... Ça fait un espace qui va permettre le travail intérieur. Bon, peu importe. Moi, je pense que c'est plus simple de comprendre qu'on est assez proche de inconscient, préconscient, conscient. Conscient, préconscient, inconscient. Chacun étant séparé par des frontières plus ou moins poreuses. Mais peu importe, on y reviendra. Donc alors, une fois qu'on a compris l'importance de ce contenant psychique, qu'est-ce qui doit être traité par le contenant psychique ? Ben, c'est tout ce qui risque de nous déstabiliser ou de trouer notre contenant psychique. Donc ça vient de l'intérieur, c'est les angoisses, c'est les émotions trop violentes, c'est les pulsions, c'est les sensations trop violentes aussi. Si j'ai une sensation trop violente, j'arrive plus à penser. Si j'ai une douleur terrible, mon contenant est... mais pas capable de le contenir. Et du coup, je suis débordé, je peux finalement arriver à délirer en ayant trop de douleur, par exemple. Hein. Donc, je dois traiter ce qui vient de l'extérieur, qui est problématique, qui est perturbant, et je dois traiter ce qui vient de l'extérieur. C'est ce que Freud appelle le par-excitation. C'est-à-dire, il faut que je sois capable de gérer des excitations trop fortes. Que ça soit sexuelle, agressive ou je ne sais quoi, qui vient de l'extérieur. J'ai un par-excitation qui doit absolument réguler quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et s'il y a un trou qui est créé par un traumatisme, à ce moment-là, c'est comme si on trouvait la peau et que le sang s'écoule. S'il y a un trou qui est fait par un traumatisme venu de l'extérieur, c'est comme si j'avais une partie de mon identité qui s'écoule pendant un certain temps et qui est mal foutue. D'où la difficulté quand il y a des abus sexuels ou je ne sais quoi, parce que c'est comme s'il y avait une véritable perte qu'il faut d'urgence combler le trou, quoi. Alors évidemment, comment on le comble habituellement ? Habituellement, on comble le trou avec des mécanismes de défense qui sont l'équivalent de la cicatrisation. Mais vous savez que des cicatrices peuvent être mauvaises, peuvent être trop problématiques, trop difficiles, trop etc. Et nous, on a des systèmes pour réguler, pour essayer de boucher le trou, qui peuvent être problématiques, c'est-à-dire le refoulement, le clivage, tous les mécanismes de défense qui vont faire que on veut absolument pas voir ça. On veut pas le traiter. On veut juste l'oublier, juste sortir de cette douleur, juste éviter de perdre ce qui est en train de fuir à l'intérieur de nous et qui va se manifester par des symptômes. Parce que les symptômes manifestent que le contenant n'arrive plus à gérer ça, qu'il est débordé, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Bien sûr, au départ, tu es obligé de te protéger. Mais après, c'est important à un moment donné de pouvoir le revoir, le traiter. Par exemple, mettons, il y a un couple espagnol qui s'appelle les Brunner, qui a énormément travaillé avec les enfants sur la trace de la guerre, parce qu'il y a eu la guerre, etc. Donc, ils ont élaboré un système qui est pas mal du tout, qui est très simple à faire avec les gens, avec les enfants traumatisés. C'est de leur faire élaborer trois dessins. Un dessin de leur vie avant, comment c'était avant, avant le bombardement, avant l'envahissement par des gens qui sont venus tuer tout le monde, etc. Comment c'était avant. Ensuite, un deuxième dessin, comment ça s'est passé, quels souvenirs. Alors là, il y a des trucs de tous les côtés, des siens de guerre, de violence, etc. Et un troisième dessin qui est comment tu verras plus tard, comment tu pourras vivre plus tard. Ben, si vous voulez, dans ces cas-là, c'est très simple au niveau des enfants, mais c'est quand même à connaître pour vous, quand il y a eu un vrai traumatisme, il faut envisager de le voir et de le traiter. Le traiter consistant à finalement le replacer dans un espace de vie. Ça a eu lieu à un moment donné, mais avant c'était pas comme ça, et plus tard ça sera pas comme ça. Donc, si on ne fait pas ça, c'est-à-dire si on ne le voit pas, si on se contente d'essayer de l'oublier, de le bétonner, de le mettre sous la couche, etc., eh bien, vous connaissez ça, hein, c'est comme si on mettait au congélateur ce qui a été extrêmement violent et problématique. Mais chacun sait que si c'est au congélateur, ça reste. Parce que le congèle, il garde les choses intactes. Et pour peu qu'il y ait quelque chose qui vienne décongeler, on se retrouve avec la même douleur, la même violence, la même perturbation, le même truc terrifiant, les mêmes nuits d'insomnie, etc., etc., au moment où ça se décongèle. Donc on a tendance vite à remettre le congélateur en route, alors qu'il faut à un moment donné passer par le travail de laisser se décongeler, de le voir et de le faire évoluer. Hein ? Ben ça, finalement, c'est typique du travail qu'on fait chaque fois qu'il y a un traumatisme venu de l'extérieur. Hein. Il y a deux dangers. Le danger, c'est de le mettre sous boisseau maximum et pour pouvoir repartir. Hein. Mais le problème, c'est que le mettre sous boisseau comme ça, ça le maintient ad aeternam. C'est comme un deuil mal fait. un deuil mal fait, c'est la personne, elle va très vite aller mieux, elle oublie tout, etc. Et puis dix ans plus tard, elle a encore son deuil. Les symptômes, ils viennent du fait que c'est encore présent et que tu ne sais pas le traiter psychiquement. Donc, comme tu ne sais pas le traiter psychiquement, eh ben, tu le traites somatiquement ou relationnellement, ou etc. Hein? Les symptômes, c'est un déficit de traitement du contenant psychique. Les deux dangers, c'est d'une part de mettre un boisseau au maximum et d'autre part de répéter tout le temps la même chose. Parce que après un traumatisme, tu as ce qu'on appelle la compulsion de répétition. C'est-à-dire, par exemple, la personne, toutes les nuits, elle va rêver un rêve qui sera la reproduction exacte de la situation traumatique. C'est pas un rêve qui élabore, finalement. C'est un rêve qui est reproduit. Avec chaque fois, ça rouvre la blessure et la peur et la terreur. Donc il est nécessaire de traiter la répétition du traumatisme par une symbolisation verbale ou, chez les enfants, non verbale à travers les dessins et les jeux.
Il n'y a pas longtemps, j'ai eu la demande d'une mère dont la fillette de 7-8 ans avait eu ils avaient eu un accident de voiture. Et elle faisait des insomnies depuis.
Bien sûr.
Rien n'y faisait.
Toutes les nuits. C'est ce qu'on appelle la compulsion de répétition du traumatisme. Et c'est, vous verrez la différence, pour vous qui connaissez la psychanalyse, c'est que c'est des rêves qui n'ont aucun intérêt. Ils ne sont pas du tout symbolisés. C'est pas « je suis en train de me battre avec un géant terrifiant qui va finir par me tuer ». C'est « je me retrouve à nouveau en train de revivre l'accident ». Donc c'est des rêves qui ne font que réveiller la douleur sans la traiter. Mais le but quand même de la compulsion de répétition, c'est de dire « je veux que ça se finisse, je veux le traiter ». Sauf que c'est une très mauvaise manière de le traiter, puisque c'est juste revivre, quoi. Et pour nous, l'importance, que vous verrez ensemble, on verra ensemble, c'est de réussir à le mettre plutôt à distance à travers la symbolisation. Donc alors, comment ça va être traité? Eh bien, par la symbolisation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du contenant psychique, il y a les affects violents, la terreur, la rage, etc. Il y a les sensations violentes. Tout ça, c'est à l'intérieur. Et ça se présente à l'intérieur sous une forme non verbale, quoi. C'est des affects débordants, c'est des sensations débordantes. Et en fait, il faut que ces affects, ces sensations, ces traumatismes, ces angoisses, à l'intérieur, ça se parle pas d'une façon verbale, ça se parle à partir d'images et de symboles qu'on va devoir transcrire et traduire en langage verbal mentalisé parce que ça donnera un sens et ça permettra de renforcer le parexcitation. Eh bien, ce travail-là, c'est typique du travail qu'on fait à l'intérieur du contenant psychique. C'est-à-dire qu'on va transformer un langage qu'on appelle un langage primaire à base d'images, de sensations, d'affects, d'émotions, en quelque chose qui commence à prendre une forme grâce au fantasme et qui lui-même va être ensuite élaboré en compréhension mentale verbalisée. Voilà ce qui se passe avec mon patient. Hein? Eh bien, ça, c'est typique du travail qu'on fait à l'intérieur de notre contenant psychique. Et c'est ce qu'on va faire aussi avec les enfants, c'est-à-dire permettre que leurs affects, leurs émotions, leurs angoisses, leurs sensations trouvent une formalisation métaphorique par le dessin ou les jeux. Et du coup, après, cette évolution du dessin ou du jeu avec notre aide, parce que nous, à ce moment-là, on va avoir une fonction dont je vais vous parler, va permettre que ça devienne, pour nous, beaucoup plus conscient sur le sens, et pour l'enfant, une nouvelle façon de gérer. OK ? Par contre, si jamais je ne sais pas faire ça, eh bien, je fais des symptômes. Puisque tout ce que je ne suis pas capable de traiter à l'intérieur de mon contenant psychique, il va falloir que je le traite autrement. Eh bien, le plus facile, c'est le corps qui va reprendre ça. Donc, je vais avoir des symptômes physiques. Et je me dirais, mais c'est bizarre, pourquoi j'ai ces symptômes physiques, etc. C'est-à-dire que je ne serais plus en train d'essayer de formaliser ce qui est en train de vraiment se passer pour moi. Merde, alors il m'arrive telle maladie. Ah ben, c'est bizarre. C'est juste après qu'il se soit passé telle et telle chose, mais ça n'a rien à voir. Bien sûr, soi-disant. Donc on décharge dans la somatisation, puisqu'il faut que ça se décharge, ça fait une pression interne. Et on peut aussi décharger relationnellement. C'est-à-dire qu'on va rejouer dans la relation quelque chose qui est ce qui devrait se jouer au niveau du fantasme pour être terminé. Tout ça en toute inconscience, évidemment. Autrement dit, le symptôme, finalement, c'est relativement simple dans la perspective que je vous explique, c'est un déficit d'être capable de le gérer au niveau du contenant psychique. Moi, j'ai tendance à tout mettre dans la compréhension psychique. Ouais. Mais si tu veux, un enfant de 3 ans, il est encore extrêmement poreux à tout un tas d'impressions et d'envahissements par l'extérieur. Donc il peut très bien être porteur d'un truc noir, sombre, difficile, qui est mal porté par les parents ou qui est transmis transgénérationnellement. Donc, bien entendu qu'on ne va pas faire du tout psychisme parce qu'il faudra bien faire aussi un travail sur le corps, mais malgré tout, on peut comprendre que c'est pas rien ce qui se joue là, quoi. Mais plus il est jeune, plus il se laisse envahir par ce qui vient de l'extérieur. Donc, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point la symbolisation est un élément capital. Pour les adultes et pour les enfants. Évidemment, un travail psychanalytique avec le rêve éveillé permet de développer cette capacité de symbolisation, puisqu'on a pris l'habitude d'entendre, à travers les rêves éveillés, une partie de nous-mêmes qui s'exprime sous une forme masquée, symbolique, et petit à petit de la décoder. Donc au fond, d'une certaine manière, on renforce la capacité à traiter à l'intérieur de notre contenant psychique tout ce qui doit se dire. Comment se constitue ce contenant dans l'enfance? Comment ça se constitue? Alors, de trois manières. Premièrement, par l'appui sur le contenant psychique maternel. C'est-à-dire que le petit dépourvu de contenant psychique, le bébé dépourvu de contenant psychique, eh bien, comment il va faire quand il est débordé par les affects, par les sensations, quand il hurle à tout propos et tout? C'est pas pour rien, c'est parce qu'il est débordé. Et à ce moment-là, la mère va, grâce à l'identification projective, c'est-à-dire qu'elle est capable de se relier très étroitement à ce qui est en train de se vivre chez le bébé, va comprendre et contenir ce que l'enfant est en train de vivre. Mettons, je vous l'ai déjà expliqué, elle est en train de donner le bain au bébé, il se met à bouger, à s'agiter, à crier, la mère le prend, lui parle, elle doucement, t'inquiète pas, c'est pas grave, je te tiens, tu vas pas te noyer, etc. Bien, qu'est-ce qu'elle fait en faisant ça, même si elle n'a pas fait d'études de psychologie? Eh bien, en faisant ça, elle est en train de transmettre à l'enfant, voilà comment ça a du sens ce que tu vis, et voilà comment on peut le contenir, c'est pas si grave que ça. Donc quelque part, tout le travail évolutif du bébé, c'est de progressivement apprendre à intégrer un contenant psychique qui est celui de la mère, et puis ensuite celui des parents. C'est-à-dire que la façon dont ce contenant se constitue, c'est d'abord par appui sur le fait qu'il y a un autre contenant, qu'il y a un autre à l'extérieur qui est capable de nous aider à contenir et à formaliser ce qui est en train de se passer pour nous sans s'en affoler. C'est exactement ce que va faire le thérapeute. C'est-à-dire il va recevoir la violence de l'angoisse, du traumatisme ou de je ne sais quoi, le contenir, le formaliser, alors chez l'adulte par le rêve éveillé ou par l'interprétation, et chez l'enfant, le formaliser par le dessin et par les jeux. Et à ce moment-là, le thérapeute, avec son contenant psychique, va gérer ce qui est débordant pour l'enfant. Okay ? Première chose, et c'est lié au fait qu'on a tous vécu ça dans l'enfance. C'est-à-dire qu'on a appris à établir à l'intérieur de nous un contenant psychique en s'appuyant sur le contenant psychique externe qui est venu là comme un secours extérieur jusqu'à ce qu'on ait appris à gérer soi-même. Donc on va l'intégrer progressivement, ce qu'on appelle l'introjection. Le deuxième point qui va favoriser le contenant psychique, c'est tous les cadres réguliers et sécurisants que l'enfant va trouver, c'est-à-dire les règles familiales, les lieux qui ne bougent pas trop, c'est pour ça que quand il y a des déménagements, c'est souvent un peu problématique, les points de repère, etc. L'enfant, il a besoin de choses assez stables pour intégrer, pour renforcer la sécurité d'un contenant. D'une certaine manière, le cadre favorise l'intégration du contenant. D'où le fait qu'en tant que thérapeute, l'importance du cadre. Pour ceux qui ont travaillé là-dessus, vous savez bien à quel point c'est capital. Le cadre, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. C'est à la fois les règles, c'est de telle heure, c'est à tel lieu, c'est etc. Et c'est à la fois la sécurité intérieure du thérapeute. Donc, appui sur le contenant psychique de l'autre initialement, appui, intégration des cadres, et pareil pour l'adulte, hein, en psychanalyse, le fait d'intégrer la sécurité du cadre, c'est important, et appui sur des expériences successives qui garantissent que ce qui est à l'extérieur ne passe pas dans l'intérieur, et vice-versa. Par exemple, si j'ai un frère ou une sœur qui est né après moi, j'ai 3 ans de plus, et j'ai envie de le tuer. J'ai envie de le tuer. Bien sûr que j'ai envie de l'aimer, mais j'ai envie de le tuer. Parce qu'il vient m'impousser, me changer de ma place, etc., etc. Il y a des fantasmes de meurtre, inconscients. Mais si par hasard, l'enfant est handicapé, l'enfant qui vient là, il est handicapé ou il meurt, alors j'ai un sacré problème. Parce que l'extérieur est venu confirmer le fantasme de l'intérieur. Autrement dit, la barrière entre dedans et dehors, entre fantasme et réalité, a été mise en question. Autrement dit, je ne suis plus en sécurité pour me permettre d'avoir des fantasmes de toutes sortes, puisque finalement, si j'ai fantasme et que ça se réalise, alors j'ai qu'une seule solution, c'est de virer les fantasmes. Autrement dit, je vais être obligé de me récupérer avec des actions, avec des actes, mais pas avec la pensée. Et souvent, ça va devenir, si c'est trop lourd, ce qu'on appelle une pensée opératoire. C'est-à-dire, je suis en déficit de gérer à l'intérieur de moi symboliquement ce qui est en train de se passer. Je ne veux parler que de choses objectives. Hein. Et bien, du coup, je ne sais pas comment faire. Et alors, sans arrêt, j'ai ou une rigidification de mon comportement, ou, pour essayer de me protéger parce que je ne sais pas comment faire, ou des symptômes de toutes sortes. Donc les expériences successives garantissent que ce qui est à l'intérieur, par exemple le fantasme de meurtre, ne passe pas dans l'extérieur. Hein, toujours cette idée. Les pensées, c'est les miennes, c'est pas celles de l'extérieur. Il me vient pas mes pensées comme des voix qui viennent de l'extérieur, etc. Il faut vraiment que je fasse l'expérience que le dedans et le dehors, c'est deux choses différentes. Et nous, en thérapie avec les enfants, on va pouvoir permettre justement de gérer le fait que ce qui est à l'intérieur et qui se manifeste d'une manière symbolique à travers les dessins et les jeux peut être géré plutôt qu'être évacué. Conséquences thérapeutiques. Deux conséquences thérapeutiques. L'importance du cadre contenant et l'importance du travail symbolique. Ok ? C'est clair pour vous maintenant. L'importance du contenant. Eh bien, le contenant, c'est le psychisme du thérapeute. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez clair sur ce qui est à vous et ce qui est à la famille ou à l'enfant. Parce que là, ça doit être bien contenu. Moi, ce qui me concerne, je ne vais pas le mélanger avec ce qui concerne l'enfant ou la famille. Mon positionnement juste va présenter une importance capitale, puisque je vais différencier mon intérieur et ce qui est amené, Et donc le support du psychisme du thérapeute qui est capable d'accueillir ce qui est amené par l'enfant sans se mélanger et de le déposer là, va lui permettre d'être en sécurité. Il faut être le support intérieur et extérieur d'un contenant fiable et détoxiquant. Extérieur, c'est aussi à travers les horaires, la capacité à gérer l'enfant, ne pas le laisser partir dans uniquement des actings frénétiques, mais pouvoir l'aider à déposer dans le dessin et dans les jeux ce qui doit être vu, et ainsi de suite. Il y a une certaine fermeté à avoir, mais qui ne doit pas être parentale, qui est juste. Voilà comment on fonctionne, nous, tous les deux. Le cadre est donc très important, mais il est loin de n'être que matériel. Il réfère aussi au cadre théorique, clinique de chacun de nous-mêmes. Ça, c'est le cadre. Et le travail symboligène, une fois que ce cadre est établi, eh bien, ça va permettre qu'à l'intérieur se joue la symbolisation. Donc, avec l'adulte en psychanalyse rêve éveillé, ben, c'est le rêve éveillé et le travail métaphorique qu'on fait. Et avec l'enfant, ce sera le dessin et les jeux. Cette capacité de jouer avec les symboles, les images, les affects, a bien été soulignée par Winnicott, vous connaissez ça, jeu et réalité. Jouer. Il faut être capable de jouer, mais ça veut dire qu'intérieurement, le thérapeute doit avoir découvert et pratiqué cette aisance avec le jeu, avec les symboles, avec les trucs qu'amène l'enfant, et puis pouvoir jouer au sens de playing, c'est-à-dire on laisse venir ce qui doit se jouer et on le fait évoluer. Hein, là, on est beaucoup avec Winnicott comme point de repère. Hein. Vous savez que Winnicott a fait la différence entre le playing et le game. Le playing, c'est le jeu qui se déroule comme ça, mais sans avoir une règle fixe. C'est aussi un peu comme les squiggles. Les squiggles, c'est on fait un gribouillage, et puis le gamin en fait un autre dessus, et ainsi de suite, et on élabore quelque chose ensemble. C'est du playing, ça. Ça n'a pas été organisé. Le game, c'est je vais jouer suivant les règles. Hein, je vais jouer à la blotte, je vais jouer aux billes, je vais jouer avec des règles. Ben, nous, on fait du playing. En termes psychanalytiques, il s'agit de développer ou de stabiliser un préconscient opérationnel. Préconscient. C'est bien que les enfants aient des games et des règles. Nous, je parle de notre travail en tant que thérapeute.
Oui, mais moi, je te parle aussi de quelqu'un qui faisait jouer l'enfant avec des jeux, avec des règles.
Non, c'est pas très intéressant. Ça peut servir en sens de favoriser le fait que l'enfant respecte les règles et comprenne l'intérêt des règles. Donc, en ce sens-là, c'est un peu pédagogique, si tu veux. Mais c'est beaucoup moins efficace que s'il peut laisser se développer ce dont il est porteur, le déposer d'une façon symbolique, à travers les jeux et les dessins, et ensuite le récupérer détoxiqué. Donc, c'est plus quelqu'un qui le fait parce que il y a cette idée, il faut lui apprendre à faire comme il faut. Ça, c'est bien parental, quoi. Mais c'est pas vraiment thérapeutique. Donc, développer le préconscient, c'est-à-dire développer une partie de nous qui est capable de s'approcher au plus près des charges explosives qui existent en nous, hein, les angoisses, les affects terribles, les traumas qui ont été enfouis, afin de les désamorcer et d'apprendre à les transformer. Sans cette capacité d'un préconscient opérationnel, eh bien, on a de bons risques d'aller de symptôme en symptôme, les phobies, les obsessions, les cauchemars, les somatisations, etc., etc. Donc, quelle est la spécificité de la cure d'enfant? Ben, il y a trois niveaux. Il y a trois niveaux et c'est un peu ce qui fait la difficulté. Premier niveau, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, l'enfant, lui, il n'a pas encore constitué un contenant autonome. Il est encore en développement. Par conséquent, les symptômes de toutes sortes sont habituels. Les maladies d'enfance, par exemple, qui sont une manière de décharger quelque chose qui est en train de les travailler, c'est... On fait avec, c'est pas grave, c'est normal. D'une certaine manière, il ne sait pas faire autrement. les phobies de l'enfance, courant, les peurs infondées, la peur des fantômes dont parlait Ludivine tout à l'heure, etc., d'une certaine manière, c'est courant. Et donc, ce n'est pas si inquiétant que ça. Pour les parents, c'est très inquiétant. Pour nous, on sait que c'est les aléas du développement et qu'à certains moments donnés, l'enfant n'ayant pas un contenant psychique et un conteneur bien élaboré, ben, il va falloir qu'il décharge autrement et qu'il fasse des symptômes. Simplement, on va l'aider à découvrir autrement. L'inconvénient des symptômes et qui amène les parents, et c'est très bien, c'est le risque que ça devienne une sorte de stratégie installée et réflexe. C'est-à-dire, automatiquement, l'enfant reprend son symptôme, empêchant de découvrir des façons de gérer l'intérieur et l'extérieur d'une façon sécure, quoi. Ok ? Ça, c'est ce qui est premier niveau, c'est l'intrapsychique de l'enfant. Deuxième niveau, le problème, c'est que l'enfant, il n'est pas tout seul et qu'il est, enfin, c'est pas un problème, mais en même temps, ça peut être un problème, c'est qu'il est quand même fortement marqué par l'histoire infantile des parents. Parce que les parents ont des attentes, ont des projections, ont des tout un tas de trucs qui sont déposés sur l'enfant. Et leur propre histoire et leur décodage de leur propre histoire sont en jeu. C'est-à-dire que l'enfant est pris dans tout un réseau de sens, de vision de ce qu'il doit être et de ce qu'il est, qui est très inscrit comme une espèce de lien avec l'histoire infantile d'un des deux parents ou des deux parents. Hein. Donc, on a trois niveaux. Premier niveau, l'intrapsychique de l'enfant. Deuxième niveau, l'histoire infantile des parents. Troisième niveau, le système familial, qui est un peu différent de l'histoire infantile. En fait, l'enfant fait partie d'un système qui a ses règles de fonctionnement. Il y a des choses qu'on a le droit de voir, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de voir. Et même si elles sont flagrantes, on n'a pas le droit de les voir, donc on ne les voit pas. Des règles qui peuvent le conduire à tenir la place, vous avez entendu parler de ça, du patient désigné, c'est-à-dire c'est lui qui récolte la merde et qui le manifeste par un symptôme. D'une certaine manière, il se sacrifie, il est nécessaire à l'équilibre homéostatique du système. Mais alors, nous, ce qui nous importe, c'est quand l'enfant a un symptôme qui amène la famille, on ne peut pas négliger le fait que ça a un sens intéressant pour l'homéostasie du système. Et ce qui est assez courant, malheureusement, et c'est ça la difficulté, c'est que si vous faites un très bon travail de thérapie avec l'enfant et qu'il réussisse à gérer correctement les choses et à perdre son symptôme, il n'est pas rare que quelqu'un d'autre dans la famille ait un symptôme. L'enfant va mieux, mais madame déprime. Ou l'enfant va mieux, mais son frère est en train il s'est cassé la gueule, il n'arrête pas de faire des trucs, etc. Donc ça, c'est un peu le point délicat. Alors évidemment, pour bien faire, mais ce n'est pas ce que je vais vous proposer, parce que on est dans autre chose, il faudrait prendre tout le système familial en thérapie. On reçoit la famille, les enfants, etc. Bon, c'est une autre façon de faire. Contentons-nous d'aider l'enfant à passer le cap et à retrouver un équilibre. Après tout, la patate chaude ira avec quelqu'un d'autre, si c'est nécessaire. Et vous verrez quelqu'un d'autre. Donc, premier point, l'intérieur, l'intrapsychique. Deuxième point, l'histoire infantile des parents. Troisième point, le système familial. Donc, ça fait trois niveaux imbriqués dans lequel l'enfant est pris. C'est pour ça qu'on est obligé de travailler sur deux registres. Un qui concerne l'extérieur, c'est-à-dire le système familial et l'histoire des parents, et un qui concerne l'intérieur, c'est-à-dire la capacité de l'enfant à traiter sur un mode psychique et symbolique ce qu'il doit traiter plutôt que de l'évacuer dans le symptôme. Ok ? Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on peut se dire ? On peut se dire que paradoxalement, la cure de l'enfant est plus compliquée et plus simple. Elle est plus compliquée du fait de tous ces niveaux imbriqués, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'enfant tout seul. On a l'enfant avec sa place dans le système, on a l'enfant avec ce qui récolte des attentes parentales sur lui, etc. Donc c'est plus compliqué. Et en même temps, c'est plus simple, parce qu'il est en pleine évolution, et donc il pourra passer très vite à une autre étape de son développement si on l'aide à passer le cap. Donc, ça va être plus compliqué, parce qu'on est obligé de tenir compte de tout, et ça va être plus simple, parce qu'on a un gros appui sur le fait que, de toute façon, il y a ce mouvement de développement qui pousse derrière. Et donc, pour le thérapeute, c'est pour ça que tous les psys ne font pas du travail avec les enfants, c'est plus compliqué et plus simple. C'est plus compliqué parce qu'il faut savoir gérer le langage qui n'est pas du verbal, le langage avec lequel s'exprime l'enfant symboliquement, c'est-à-dire les dessins, les jeux, etc., qui d'ailleurs permettent au thérapeute qu'on est de se faire rapidement une hypothèse. Parce que c'est clair, c'est vraiment très vite visible. Ce qui ne veut pas dire que ça va être très simple. Mais... Donc il faut qu'on puisse supporter autre chose que le langage verbal. C'est pour ça que vous êtes à l'aise avec les thérapies avec les adolescents, parce que là c'est le langage verbal. Mais les thérapies avec les enfants entre 5 et 10 ans, ça va être un autre langage. Ça va être le dessin, les jeux, la pâte à modeler, etc. Et puis il faut tenir compte du poids des parents, donc c'est en ce sens-là que c'est plus compliqué. Et c'est plus simple parce que les dessins et les jeux permettent très rapidement de se faire de bonnes hypothèses. L'interaction avec l'enfant dans les dessins et les jeux permettra une rapide évolution du symptôme, du problème. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Ludivine, on le reverra aussi. Et la force du mouvement de développement dans un psychisme mouvant, non rigidifié, c'est un atout pour le changement et l'évolution. Donc c'est en ce sens-là que c'est plus simple aussi. La cure de l'ado, ben c'est un peu la même chose, sauf que lui, suivant l'âge, il est capable de découvrir son espace interne de traitement à l'aide de la parole et de l'implication du thérapeute. Donc avec l'ado, surtout après 14 ans, 15 ans à peu près, mais même avant, hein, ça va être plus facile de parler. Alors on va faire quoi ? On va faire surtout des choses qui vont permettre à l'ado de se retrouver dans, dans ses ambivalences, qui sont très nombreuses. Donc on va faire un travail sur les parties. Une partie qui est d'accord, une partie qui n'est pas d'accord, une partie qui tire dans un sens, une partie qui dans l'autre. Ça marche à tous les coups avec les ados, c'est très efficace. Parce que ça correspond à leur réalité, ils sont déchirés entre différentes parties. Donc on fait discuter les parties. On peut travailler sur le recadrage. Lui faire apercevoir que ce qu'il cherche à travers un symptôme, finalement, ça a de la valeur. C'est pas pour rien que c'est là et qu'il est en train de chercher quelque chose. Que s'il se scarifie, ben c'est pas pour rien. C'est pour mettre une douleur psychique insupportable, la transformer en douleur physique qu'il gère lui-même, ou des trucs comme ça. Donc le travail sur les parties, le recadrage, le sens positif du symptôme, c'est particulièrement efficace avec les ados. Et là, le langage est un support facile, particulièrement avec les outils de la TBSI. Mais il faut savoir que les ados, comme pour les enfants, même pire, sont, du fait du changement corporel, du fait de la poussée hormonale, ils ont une difficulté à avoir un contenant psychique sécurisé, parce que le contenant psychique est en rapport avec l'image du corps. Tout à l'heure, je vous parlais du moi-peau, mais si tu as ce corps qui bouge sans arrêt, qui est jamais... D'un jour à l'autre, tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Et il y a des trucs qui poussent et il y a des trucs qui ne poussent pas. Et tu es mal et tu ne te reconnais plus. Et tu as de l'acné. Tu as un corps qui t'échappe. Alors qu'avant, jusqu'à 10 ans, tu étais dans ton corps à l'aise et tout ça. Il y a quelque chose qui vient toucher le contenant. Le contenant. Tu es mal dans un contenant de corps et du coup, ça vient toucher ton contenant psychique. Et la difficulté, c'est d'avoir un contenant psychique sécurisé. Donc, de 12 à 18, le contenant psychique étant relativement faible, l'ambivalence est de mise. Je veux, je veux pas, je suis passif et je suis actif, etc. Et le passage par l'acte ou par les somatisations est très fréquent, mais par l'acte. Donc, là aussi, on retrouve à la fois la difficulté, parce qu'il y a souvent des symptômes spectaculaires, et à la fois la simplicité, parce qu'au fond, il suffit d'aider à retrouver un contenant qui tienne à peu près et qui gère les choses, quoi. Qui donne de l'emprise sur ce que, sur le sens. Difficulté, c'est contenir et psychiser plutôt que passer à l'acte et de faire des symptômes. C'est essentiellement ça qu'on va faire. Simplicité, c'est que le psychisme fluctuant de l'adolescent est susceptible de très vite saisir l'opportunité de changement. Donc ça va changer vite. Voilà, on reviendra sur tout ça en détail. Donc c'était mon topo d'introduction sur ce qu'on va faire et sur ce qui est caractéristique de la thérapie avec les enfants et avec les ados. Donc, on va se donner un petit quart d'heure de questions à partir de ce que je viens de vous dire, et ensuite, on mangera. Voilà.